Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 Pascal Canfin, le président du WWF.
Bonjour.
Question, bonjour au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Merci d'être à notre micro. Le mouvement des Gilets jaunes entre aujourd'hui dans son quatrième jour. La mobilisation décroît depuis la journée de samedi, mais des blocages persistent ce matin encore et le mouvement pourrait rebondir à Paris samedi prochain. Si les revendications sur les prix du carburant ont constitué la première impulsion. On voit bien qu'on n'en est plus là. Le mouvement est en dérive totale, dit Christophe Castaner ce matin, le ministre de l'Intérieur. Avant d'en venir à cet aspect, dites-nous, selon vous, Pascal Canfin, de quoi les Gilets jaunes sont-ils, selon vous, le symptôme profond aujourd'hui ?
Je dirais qu'ils sont le symptôme de trois éléments. Le premier élément, c'est une critique politique à l'égard du président de la République. On a vu partout sur les chaînes info samedi les Macron démission, etc. En tant que directeur du WWF, je n'ai pas à me prononcer évidemment sur la partie politique. Il y a un deuxième élément qui est l'aspect social. Et là, on va évidemment y revenir sur les questions de pouvoir d'achat, d'alternative à la voiture individuelle. Mais sur cet élément-là, il faut tout de suite dire que ça n'est pas la fiscalité anti-pollution qui pose le problème, c'est la vulnérabilité au pétrole, au choc pétrolier, et quand le pétrole est à 80 dollars, ce qui est décidé par l'Arabie Saoudite, les États-Unis et quelques autres pays, alors les personnes les plus vulnérables en France, dans le milieu périurbain, le prennent de plein fouet. Et puis il y a le troisième élément, c'est des personnes qui n'ont absolument pas de problème de pouvoir d'achat, mais qui ont un attachement viscéral à la voiture individuelle et d'être tout seul. Et pour le coup, ceux-là, je n'ai qu'un seul message à leur dire, comme à Jacqueline Moureau, qui est une des porte-parole des Gilets jaunes, qui se balade avec son 4x4. C'est-à-dire, si vous trouvez que l'essence c'est trop cher, vous enlevez le 4x4 et vous mettez une petite voiture. Les solutions écologiques pour diminuer l'impact du prix du pétrole lorsqu'on est aussi attaché que ça à sa voiture individuelle, c'est d'en prendre une plus petite.
Nicolas Hulot a démissionné il y a 3 mois en disant que la société n'était pas prête. Est-ce que 3 mois après, on peut dire que la société n'est vraiment pas prête quand on voit ce mouvement des Gilets jaunes? Je précise ma question, par-delà vos discours alarmistes, la disparition des oiseaux, la disparition des abeilles, le recul de la biodiversité, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent juste, moi je peux pas faire le plein, c'est très bien l'écologie, mais moi je ne peux pas faire le plein.
Absolument, donc c'est la question centrale de l'articulation entre les questions de justice sociale et la transition écologique. Et ça faisait, pendant que Nicolas Hulot était au gouvernement, pendant des mois, il a et on a plaidé pour qu'une partie plus importante de la fiscalité anti-pollution soit reversée vers de l'accompagnement des familles, des ménages qui en ont le plus besoin, parce qu'effectivement certains sont piégés dans la trappe à pétrole qui peut se transformer en une trappe à pauvreté.
Et que lui a répondu le Premier ministre ou le Président de la République
à l'époque? Quelle était la réponse? La réponse a été de dire la fiscalité écologique, ça sert majoritairement à financer le CICE, donc en gros la baisse de la fiscalité sur le travail. C'est ce qui a été dit, redit, re-redit, d'ailleurs récemment encore par le président de la République et le Premier ministre.
Mais est-ce que c'est pas ça l'immense problème?
Exactement.
C'est de ne pas flécher cette fiscalité écologique. Si on expliquait aux gens qu'elle est complètement pour l'écologie, or elle va à 80% pas pour l'écologie.
Vous avez raison Léa Salamé, c'est un problème fondamental qui ne date pas de ce gouvernement, qui date du gouvernement précédent lorsque la fameuse taxe carbone a été mise en place, puis elle augmente progressivement et je salue le fait que le gouvernement tienne bon là-dessus. En revanche, le problème, et vous venez de le souligner, c'est que c'est difficilement compréhensible. La logique voudrait, et c'est ce pourquoi on se bat au niveau des ONG, c'était la proposition de Nicolas Hulot. Finalement, on a un tout petit peu gain de cause, mais dans l'urgence, et pas forcément de manière sereine avec le plan des 400-500 millions qui a été annoncé par le Premier ministre il y a quelques jours. Mais il faut aller au-delà, puisque c'est dans le sens de l'histoire d'augmenter la fiscalité sur les pollutions. Mais il faut que cet argent qui est collecté, et il faut qu'il soit collecté pour financer les investissements verts, finance bien des investissements verts.
Vous dites,
et si on fait ça, on augmente considérablement les solutions qu'on propose aux Français et l'acceptabilité et la compréhension du dispositif.
Vous dites c'est le sens de l'histoire. Regardons ce sondage IFOP-JDD de dimanche. J'imagine que vous l'avez regardé de près. 62% des Français souhaitent que le gouvernement donne la priorité au pouvoir d'achat sur la transition transition écologique. Est-ce que vous ne craignez pas que ce mouvement, qui montre déjà que le consentement à l'impôt recule, voit aussi le consentement à la transition écologique reculer?
Sincèrement, je ne pense pas.
Dites-le-nous sincèrement.
Je vais vous le dire sincèrement. Je n'ai pas vu, j'ai regardé comme vous les images samedi. Je n'ai pas vu un seul gilet jaune avec le sigle « le climat, on n'en a rien à faire, l'écologie, ça suffit, etc. » J'ai pas vu ça. J'ai vu des slogans politiques, j'ai vu le ras-le-bol fiscal, j'ai vu un sentiment de relégation et d'abandon. Ça, on l'a vu sur les gilets. Je n'ai pas vu le message de dire « l'écologie, ça suffit ».
Vous ne voyez pas une écologie conflictuelle émerger là?
En revanche...
Pascal Canfin.
Non, parce que pourquoi? Parce que
on l'a dit,
au contraire, c'est il y a l'électrochoc dont on a parlé quand Nicolas Hulot a quitté le gouvernement. Aujourd'hui, il y a un deuxième électrochoc. On pourrait tenter de les opposer, ce que vous venez de faire dans la question. En fait, la réalité, c'est la même réalité. Pourquoi? Parce que les personnes aujourd'hui, les familles, les salariés qui sont victimes de cette augmentation du prix du pétrole, ben quelle est la solution qu'on peut leur proposer? C'est précisément de le covoiturage. Les aides pour changer de voiture, le digital qui arrive, qui fait que la navette autonome va pouvoir se développer au-delà des hypercentres-villes vers le périurbain, c'est en train d'arriver. Par contre, j'avais dit, je m'avais fait venir à votre micro lorsque Nicolas Hulot avait démissionné, et j'avais dit on a besoin d'un bing-bang. Là aussi, c'est un très très bon exemple. Personne ne pilote le fait que la dizaine de millions de Français qui vit en zone périurbaine, qui n'a pas d'alternative à la voiture aujourd'hui, ait le plus rapidement possible une alternative. Ça n'est la responsabilité de personne.
De la région.
Mais non, justement, la région va se défausser sur l'État, puisque l'État, la région va dire, on m'a enlevé les crédits, etc. Et seulement en 2019, dans la future loi mobilité, on va étendre ce qu'on appelle techniquement les autorités organisatrices de mobilité, qui vont avoir la responsabilité d'organiser la décarbonation de la mobilité aux 10 millions de personnes qui sont en zone périurbaine. Seulement maintenant. Ça prouve bien qu'il faut aujourd'hui changer très très vite de braquer. Et Laurent Berger a fait une proposition, patron de la CFDT, sur un Grenelle.
Je pense qu'il faut éviter... Il a été retoqué par
Edouard Philippe. J'en ai parlé avec lui, je pense qu'il faut éviter les grands-messes, évidemment, parce que ça sert à rien, il y en a déjà eu, et ça n'apportera pas de réponse concrète aux Français. En revanche, il y a deux problèmes sur lesquels, depuis 10 ans, on fait semblant d'avancer sur la transition. C'est la rénovation des passoires énergétiques. Il y en a 7 millions. Tous les gouvernements disent...
C'est quoi une passoire énergétique?
C'est les immeubles, les logements qui sont très très mal isolés, ce qui fait qu'il y a des factures énergétiques qui parfois peuvent être supérieures au loyer tellement le logement est mal isolé. 7 millions de passoires donc énergétiques. 500 000 objectifs de rénovation par an, ça fait des années. C'était vrai sous Sarkozy, c'est vrai sous Hollande, c'est vrai sous Macron. Des années qu'on dit « Ah, on va le faire » et on ne le fait pas. Il faut arrêter de faire semblant. C'est pareil sur l'alternative à la voiture individuelle dans les zones hors centre-ville. Aujourd'hui, il y a deux chemins. Soit on détricote tout et on dit finalement, on va vous laisser vous enfermer dans un étalement urbain illimité, dans des trajets domicile-travail qui ne cessent d'augmenter, dans du prix du pétrole qui ne cessera d'augmenter aussi. Et à ce moment-là, ces 10 millions de Français-là, ils seront piégés et victimes. Soit on dit, au contraire, l'écologie, c'est la seule façon de remettre du pouvoir d'achat, justement. Et je voudrais répondre à la question sur le pouvoir d'achat. Parce que quand vous covoiturez, vous divisez les coûts par deux. Quand vous avez une alternative collective à la voiture, en Ile-de-France, même aux marges de l'Ile-de-France, je vais prendre un exemple très concret. J'ai discuté avec la Fédération des maires ruraux récemment. Vous avez aujourd'hui 20% des agents de la ville de Paris qui vivent dans des villages de 2000 habitants. Ça veut dire qu'ils vivent dans l'Oise, au fin fond du Val d'Oise, etc., dans des zones périurbaines, voire rurales. Eh bien, la ville de Paris a organisé le covoiturage et la mobilité. Résultat, il y a une explosion de l'utilisation de ce service et une diminution radicale des coûts du carburant. Donc, c'est possible de le faire. Mais moi,
Pascal,
ce que je proposerais...
Vous êtes difficile à couper.
Oui,
hein. Pascal Canfin,
je suis passionné sur ce sujet.
C'est un meeting. C'est dans le sens de l'histoire. Je reprends votre phrase. C'est dans le sens de l'histoire d'augmenter la fiscalité des carburants. Ségolène Royal, elle dit oui, mais elle dit nous, ce qu'on avait prévu sous Hollande, c'était de l'augmenter, cette fiscalité écologique, mais beaucoup moins que ce qu'a fait Macron. Et c'est ça, est-ce qu'elle n'a pas raison?
Ce qu'a fait Hulot. Il faut assumer, et Nicolas Hulot, je crois, sera avec vous dans quelques jours.
À la télévision.
Et évidemment, il va assumer cela. C'est si on veut financer les investissements dans la transition, il faut des recettes. Et pour avoir les recettes, il faut de la fiscalité qui taxe les pollutions.
Mais est-ce que vous n'avez pas augmenté trop cette fiscalité écologique? Mais non, parce que les écologiques, beaucoup plus que ce qui était prévu sous Hollande.
Ce qu'il faut, c'est qu'elle soit reversée pour développer les solutions. Parce que sinon, évidemment, on marche sur la tête. Et donc, la demande qui est très claire, qui est là depuis des mois et des mois, et que l'on reformule encore aujourd'hui, c'est que au moins 50% des recettes liées à la fiscalité anti-pollution viennent financer la transition écologique.
On va aller au standard, Pascal Canfin. Dans quelques instants, une question sur ce qu'on apprenait ce matin sur le nucléaire. Trois scénarios sont sur la table, seront arbitrés la semaine prochaine par le gouvernement. 0 à 6 fermetures de réacteurs nucléaires d'ici 2028 plus Fessenheim. Voilà, ça c'est l'un des trois scénarios. 50% du nucléaire d'ici 2035 ou 2040 selon l'un des trois scénarios. Lequel a votre préférence et sera surtout tenable? Ça sert à rien de faire des annonces si on peut pas tenir les promesses.
Absolument. Je pense qu'il y a déjà un premier enjeu qui est de ne pas remettre nos billes dans une technologie qui s'appelle l'EPR, qui est incapable de faire ses preuves puisque nous n'avons toujours pas été, enfin EDF n'a toujours pas été capable de produire le moindre EPR et les coûts explosent. Et donc ce serait une absurdité totale que les prochaines annonces qui vont arriver dans les tout prochains jours consistent à relancer l'EPR. Donc la première décision à prendre, c'est de dire sur ce quinquennat, il n'y a aucune décision concernant la relance éventuelle d'un nouvel EPR. Premier élément. Deuxième élément sur l'existant. La France est le seul pays au monde à avoir 80% de son électricité à base de nucléaire, c'est-à-dire à dépendre massivement d'une seule technologie. Ça veut dire zéro résilience. D'accord. S'il y a un problème, c'est tout le système qui a un problème. On est le seul pays au monde à avoir fait ce choix. On peut s'interroger sur la pertinence de ce choix. Quelle est la logique de la transition écologique et énergétique en l'occurrence? C'est de diversifier, devenir quelque chose, devenir une trajectoire qui nous ramène à 50% de nucléaire.
D'accord, ils vont s'engager à la réduction d'ici 2035 ou 2040.
La date ne peut pas être au-delà de 2035. Pourquoi? Parce que sinon, on fait une fausse transition dans la mesure où les centrales arriveraient de toute façon en fin de vie et de toute façon, il faudrait les faire. Donc c'est un pur effet d'annonce. Donc il faut évidemment que la date maximum, ce soit 2035. Et puis le troisième élément, c'est là, le rythme de baisse. Là, vous avez deux options. Soit vous renvoyez les décisions au calendrier grec, et évidemment, personne n'est dupe. Si la décision qui est annoncée dans quelques jours, c'est que sur ce quinquennat, si il n'y a pas de fermeture de réacteurs supplémentaires
si, après
au-delà de Fessenheim, et qu'en plus, dans le prochain quinquennat 2022-2027, il n'y a pas non plus de fermeture de centrales. Honnêtement, là, c'est vraiment se moquer
du monde. Pardonnez-moi, on attend évidemment les décisions.
Un mot, Léa, puis les auditeurs, s'il vous plaît.
Pour être très clair sur ce sujet qui est capital, qui est le nucléaire, et c'est vrai que ça fait un an qu'on attend et Nicolas Hulot est parti sans avoir la date. Mais s'il s'engage à fermer entre 0 et 6 réacteurs d'ici 2028, entre 0 et 6 réacteurs d'ici 2028, est-ce que ce sera suffisant pour atteindre l'objectif des 50%?
Pascal Canfin.
Il faut pour atteindre, c'est une règle de 3, pour atteindre l'objectif des 50%, il faut enfermer jusqu'en, à une certaine date, on va dire 2035, 14. Et donc, il faut grosso modo plus les deux réacteurs de Fessenheim. Et donc, en gros, ce qu'il faut faire là, c'est pas repousser au calendrier grec, c'est le faire. Le faire parce que c'est l'intérêt des Français, parce que ça diversifie le risque.
Dans ce quinquennat,
probablement non. Je vous le dis, dans ce quinquennat, probablement non, parce que on va d'abord fermer les centrales à charbon. En revanche, il faut un double objet politique. L'objet politique, c'est la France sort du nucléaire et l'Allemagne sort du charbon. Et puisqu'on est à 6 mois des élections européennes, voilà un très bel objet de coopération et d'accord politique franco-allemand qui est de mettre en place la double transition, la sortie du charbon en Allemagne, la sortie du nucléaire ou la baisse du nucléaire en France.
Pascal Canfin, les auditeurs de France Inter ont la parole. Je salue Thomas, bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Donc moi, je voudrais rebondir sur une question qu'a posée Léa il y a 5 minutes, qui disait qu'on fiscalisait sans doute trop. Moi, en fait, c'est pas trop, je trouve que c'est trop vite. C'est-à-dire qu'en fait, on laisse pas le choix. Moi, j'habite dans le sud du Tarn, donc je vous invite à venir me voir et à me proposer d'aller en transport en commun. J'ai un diesel parce qu'on m'a dit depuis toujours que c'était mieux, que c'était plus rentable. Et moi, avec plaisir, je prendrai un hybride, une voiture hybride. Simplement, je vois pas comment je peux faire, là, en me disant du jour au lendemain, je vous augmente de X% la fiscalité, et puis je vous donne les 50 euros de chèque énergie et 2000 euros pour changer de voiture, en sachant que ma voiture aujourd'hui elle est tout à fait en bon état et que ça me demandera environ 30 000 euros pour changer. Donc ma seule question, c'est comment je peux faire avec un revenu d'enseignant, à peu près 1500 euros par mois, pour aujourd'hui être dans les clous et ne pas. Alors, je ne suis pas gilet jaune, hein, donc c'est pas absolument pas politique ce que je suis en train de vous dire là. C'est que je sais pas comment faire. Moi, je changerai de voiture dans 4-5 ans et j'ai absolument pas les moyens aujourd'hui de m'acheter une voiture hybride, même aller au maximum avec les 4000 voire 6000 euros auxquels j'aurais pas le droit parce que je gagne trop pour ça. Comment je fais? Voilà, simplement, c'est une question. Et dernière chose, c'est que pour moi, on est sur une hypocrisie complète quand on parle d'écologie dans ce sujet-là. Parce qu'il y a des mesures très très faciles à mettre en place. Si vraiment on veut que ce soit écologique, demain on aligne le prix des hybrides ou des électriques sur le prix du gasoil, et ça l'État, tant pis, met la main à la poche, enfin nous les contribuables, et la mesure elle est très claire et elle fonctionne. Donc l'hypocrisie, il faut arrêter.
Merci.
Je ne comprends pas pourquoi les écologistes sont si avenants avec le gouvernement actuel. Voilà.
Ah, c'est une vraie question qu'on va poser à Pascal Canfin. Merci pour votre intervention, Thomas. Que puis-je faire? Dites tout simplement notre auditeur.
Alors, la dernière remarque, c'est l'hybride serait ou l'électrique serait plus cher que le diesel. Aujourd'hui, que choisir, hein, a montré que c'était faux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'option la plus économique est de passer justement sur l'hybride ou sur l'électrique. Donc ça veut dire que le modèle économique s'est inversé. C'est tout récent. Il faut que tout le monde le comprenne.
Pardon Pascal, enfin, vous savez combien coûte une voiture électrique, Renault, puisque Renault fait l'actualité.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Juste que aujourd'hui, à équivalent de motorisation, de service, c'est moins cher. Dans la durée, pas seulement à l'achat, mais dans la durée, puisque je vous réponds que le plein, la charge d'une voiture électrique, c'est 2 euros. D'accord. Donc, vous voyez que sur la durée, ça permet d'économiser un sacré nombre de pleins. Le deuxième élément, c'est que, oui, il faut maintenant, et c'est ce que je disais la dernière fois que vous m'avez invité sur le Bing Bang, il faut passer en opération commando. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait des années et des années et des années que tout le monde se renvoie la balle et n'offre pas de solution à notre auditeur. Et donc, là encore, on est face à deux options. Soit on détricote tout et on dit, bah finalement, il n'y aura jamais de solution. Et il sera toujours au diesel. Et puis, on verra bien. Il y aura toujours les dizaines de milliers de morts. Il y aura toujours la dépendance à l'Arabie Saoudite, etc. C'est ça le chemin. Ou alors, on prend tous les cas de figure qui ont émergé dans le débat public récemment, et notre auditeur vient d'en reparler, et on se met en mode commando. On met l'État, les régions, les entreprises qui ont une obligation de plan de déplacement d'entreprise, l'éducation nationale, etc., pour dire comment concrètement on offre une solution à notre auditeur et à tous ceux qui sont coincés. Et si on fait, et faire ça, c'est pas faire un Grenelle avec une grand-messe, c'est réunir tout le monde. Moi, si vous voulez, si j'étais à la place d'Emmanuel Macron, ce que je ferais, c'est je les réunirais, je leur dirais, on a 15 jours pour se mettre d'accord sur toutes les solutions et on sort pas de la salle les 3 derniers jours, les 2 derniers jours, en mode accord de Matignon, Michel Rocard, Nouvelle-Calédonie. On sort pas de la salle.
Vous l'avez proposé,
tant qu'on
ça
pas, non, je vous qu'on
le dis sache comment avancer.
Pourquoi vous dites ça?
Bah, c'est, vous mettez sur la table une proposition qui n'est pas celle de Laurent Berger. Est-ce que vous l'avez dit qu'on sache comment avancer?
On va d'ailleurs le proposer en commun au président de la République, à Laurent Berger. On en a parlé hier. De passer en mode commando. De pas faire quelque chose d'institutionnel parce qu'on sait que c'est pas assez, ça répond pas à l'urgence et ça fait des années qu'on le fait, ça marche pas. C'est de dire, voilà, vous ne sortirez pas, les 15-20 acteurs clés qui sont susceptibles de prendre des décisions pour apporter une réponse à notre auditeur de la salle tant qu'on n'a pas un plan de bataille crédible.
S'il vous plaît.
Mais alors là, enfin, on fait différemment de ce qu'on a fait dans le passé.
Une question pour prolonger celle de Thomas et Denis qui vous la pose via l'application d'Inter. Quid de la pollution des véhicules électriques, batteries, etc. La voiture propre est-elle sale, Pascal Canfin?
Rien n'est pas impactant, d'accord? Tout est polluant. La question, c'est question de degré. Il a été montré que le véhicule électrique pollue sur l'ensemble de son cycle de vie à peu près 2 fois moins que le véhicule diesel ou essence. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des batteries en deuxième vie? Et les batteries en deuxième vie peuvent devenir des tours qui deviennent des lieux de stockage de l'électricité et donc deviennent totalement complémentaires avec le développement des énergies renouvelables. Donc, il y a un écosystème, en quelque sorte, qui a été démontré sur le plan industriel entre le développement de la voiture électrique et le développement des renouvelables. C'est évidemment ça comporte. Je voudrais revenir sur le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est possible? Parce que j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire concrètement. L'idée selon laquelle l'écologie ce serait forcément négatif pour le pouvoir d'achat, c'est quelque chose que moi auquel je n'adhère absolument pas. Pourquoi? Quand vous achetez une petite voiture par rapport à une grosse, c'est moins cher. Quand vous prenez un vélo électrique pour faire 2 km plutôt que la voiture, c'est moins cher. Quand vous mangez moins de viande que ce que vous aviez l'habitude d'en manger, c'est moins cher. Et je pourrais multiplier les exemples comme ça. Quand vous covoiturez, c'est moins cher. Quand vous allez en vacances plus près que plus loin, c'est moins cher. Quand vous achetez des produits locaux faits par le maraîcher à côté plutôt que du bout du monde hors saison, c'est moins cher. Et donc l'idée selon laquelle l'écologie serait l'ennemi du pouvoir d'achat, je pense c'est faux. Au contraire, l'écologie, si elle est maîtrisée, si elle est pilotée, c'est au contraire l'ami du pouvoir d'achat et de notre indépendance stratégique.
On retourne au standard. Gilles, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci. Donc voilà, c'est une remarque plus qu'une question. Une petite histoire personnelle. Je viens de déménager. J'ai déménagé cet été pour me rapprocher de mon travail. J'habitais à 50 km de mon travail à Avignon. J'ai cherché des solutions. La solution était double, c'est-à-dire de m'éloigner un peu, de pouvoir prendre les transports en commun, c'est-à-dire de me rapprocher de chez mes parents à Montélimar. Je me suis heurté à un problème de transport en commun d'Avignon à mon lieu de travail qui est en zone Courtine, donc où il y a un gros bassin d'emploi, et d'autre part le prix des loyers. Je suis aujourd'hui à 25 km d'Avignon parce que j'ai besoin de 2 chambres pour pouvoir accueillir mon fils, et à ce prix-là à Avignon, j'avais un studio minuscule. Voilà.
Donc vous êtes rattrapé par la question des prix et du pouvoir d'achat, quelles que soient les options qui sont à votre disposition. Merci Gilles pour ce témoignage, Pascal Canfin.
Ça pose une question beaucoup plus large qui est celle de la redistribution et de la fiscalité dans son ensemble. Et là, en tant que directeur général du WWF, j'ai pas à prendre de position sur ce sujet, mais c'est un sujet évidemment politique central. La question de l'encadrement des loyers l'auditeur vient de faire référence au prix des loyers. Donc, on voit bien aujourd'hui qu'on est face à cette tension et que je constate que tous les pays qui sont les plus en avance sur la transition écologique, je vais prendre l'exemple des pays scandinaves, sont aussi les pays qui sont le plus justes socialement et où le niveau d'inégalité est le plus faible. Et je pense que ça n'est pas un hasard. C'est pas un hasard parce que ça veut dire que le consentement à l'impôt, ça veut dire que la cohésion sociale, ça veut dire que la redistribution économique et fiscale fonctionne.
Est-ce que cette crise, Pascal Canfin, va faire accélérer la France? Parce que l'entretien qu'on a, je pense qu'on l'a déjà eu à plusieurs reprises ces dernières années, et on a toujours le sentiment de faire les mêmes constats et de ne pas avoir avancé d'un centimètre.
Justement, c'est pour ça que là, on a parlé, j'irais, de trouver des solutions, mais les solutions, elles existent. On n'a jamais eu autant. Simplement, il faut les mettre en musique et accélérer. Et
mais il faut aussi, politiquement aujourd'hui en France, Pascal Canfin, il y a une volonté ou pas?
Pas suffisante. Encore une fois, je n'ai jamais été dans la caricature. Et donc, oui, il y a des choses qui sont faites, mais pas assez. Et surtout, pas de manière assez différente de ce qui a été fait auparavant, ce qui fait qu'on retombe dans les mêmes écueils. Mais je voulais vous dire, aujourd'hui, le WWF a lancé lundi l'application WAG. WAG, c'est une application qui a vocation à fédérer tous ceux qui, justement, ont l'intention d'agir ou agissent déjà pour la transition écologique. Vous la téléchargez, vous faites partie de la communauté d'action qui agit. En une semaine, on a eu 100 000 téléchargements. Et j'invite les auditeurs, puisque vous êtes la première matinale de France, imaginez la puissance. Imaginez la puissance du fait que vos millions d'auditeurs, les millions de personnes qui nous écoutent, qui ont un téléphone à côté d'elles, téléchargent l'application WAG. WAG. Excusez-moi pour cette page de pub, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ça, et que on a tout d'un coup 500 000, 1 million, 1 million et demi de Français qui disent, mais moi je fais. Dans les 100 000 Français qui ont téléchargé notre application, il y a déjà 225 000 actions concrètes pour la transition écologique individuelle. Partout.
Voilà, c'est
sur
votre application, c'est tout ce qu'on peut faire.
Tout ce qu'on peut faire là
chacun,
où on est. Et ceux qui peuvent pas
aller
sur la voiture
la
parce qu'ils sont contraints, ils peuvent le faire sur l'alimentation.
Deux questions.
Peuvent le faire. Oui, mais c'est important. Pourquoi? Parce
vous
que ça
dit.
Révèle. Non, ça révèle l'invisible. Aujourd'hui, les Français ont envie d'y aller. Simplement, ça n'est pas visible, ça n'est pas coordonné, ça n'est pas fédéré. C'est ça l'objectif qui permettra à la société d'avancer plus vite.
Alors, rapidement, Pascal Canfin, on n'a plus de temps. Est-ce qu'on vous a proposé la tête de liste LREM aux européennes ou une place sur cette liste? Si oui, pourquoi avez-vous refusé?
J'ai eu un échange avec les personnes à l'Élysée, secrétaire général de l'Élysée, avec le directeur de campagne d'En Marche. On a échangé et j'ai refusé les propositions qui m'ont été faites parce que je veux garder ma liberté, parce que je veux pouvoir venir à ce micro, vous dire exactement ce que je pense et pas vous dire machin est pas bien parce qu'il appartient à l'autre camp. Je pense que c'est plus à la hauteur des enjeux.
Est-ce que vous allez soutenir ou voter pour la liste Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot aux européennes?
Ça me regale en démocratie, je crois que c'est un choix individuel.
Est-ce que cette liste peut convaincre les électeurs et faire une percer comme les Verts en Allemagne et en Belgique. On l'a vu, ça, récemment.
Ce qui est certain, c'est que l'écologie doit être partout. Je ne me prononce pas sur le fait que l'écologie appartienne plus à un parti ou à un autre. D'accord? C'est, de là où je suis, au WWF, ce n'est pas la philosophie. Notre philosophie, c'est de mobiliser la société et l'application qu'on vient de faire peut y contribuer.
Merci, Pascal Canfin.